On est presque prêt. On attend encore quelques minutes. Je voudrais en profiter pour vous faire une petite annonce, si vous pouvez la communiquer aux autres. Comme il y a demain, comme tout le monde va être en atelier ou le matin et l'après-midi, et qu'on a été un petit peu bousculé par le fait d'avoir l'hommage de Jean-Marie l'après-midi, qui est ouvert à tout le monde, hein, qui n'est pas seulement ouvert aux biennalistes, bien entendu, mais à l'ensemble de la communauté des gens qui ont envie d'être là. Donc nous avons décidé de faire une petite, mais vraiment rapide, parce qu'on ne veut pas vous empêcher de manger, une rapide clôture symbolique de la biennale à 12h30 à la salle des textiles. L'idée est que vous repartiez avec dans la tête l'idée que la biennale continue et que l'aventure continue. Qu'il y a une équipe qui commence à se dessiner et que voilà, c'est un bel outil et on souhaitait tous que ça perdure. On ne savait pas encore sous quelle forme, mais ça va continuer et donc voilà, on ne va pas se priver des bonnes nouvelles en ce moment. Donc, enfin, si vous le jugez comme tel, en tout cas, moi, je la juge comme tel. Et je sais que Jean-Marie aurait apprécié. Donc, effectivement, on veut faire cette annonce. Alors, vous voyez, je la fais en avance parce que je me dis, je ne sais pas qui sera là pour l'entendre. Donc, vous pouvez la répercuter dans les chaumières à vos collègues. Et voilà. Donc, merci de cette intention. Donc, on va... Pas trop tarder. Martine, toi qui viens du front, est-ce que tu as vu des gens en mouvement vers chez nous?
Non, il y avait un spectacle.
Il n'est pas terminé encore. Bon, on va attendre 2 minutes. Il y avait 22 personnes. Ah oui. Ah oui, d'accord. On va attendre un tout petit peu encore. Bon, je suis désolée hein, de ces dernières. Je vais dire quelques mots pour te présenter aussi, hein, d'accord? C'est vraiment quelques minutes juste pour que tout le monde... Voilà, ça arrive. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Bon, ben je pense que... J'ose pas trop faire attendre. Mais... Attendre encore quelques minutes. Après, les gens peuvent arriver au moment de ma présentation, 5 minutes. Bon, j'en profite pour vous dire que toutes les conférences... sont enregistrés, donc dans les grands amphis en sous-sol, nous n'avons que le son, mais il sera mis en ligne. Et cette conférence-ci sera effectivement vidéo, puisque nous avons aussi l'image. Donc voilà, alors il faut nous laisser un tout petit peu le temps de mettre tout ça sur le site, mais je pense qu'à partir, soit avant, soit après les vacances, ça sera fait. On va essayer de le faire pour juin. Voilà. Et puis, il y a effectivement, Danilo, il y a la revue Éducation permanente qui va te demander, si possible, au moment de l'été, si tu pouvais... est-ce que tu as les coordonnées de Joris Oui,
j'ai commencé à échanger avec lui.
Voilà, hein, parce que ça va être publié donc dans la revue. Donc, on a aussi un numéro spécial biennal qui va sortir. Installez-vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens derrière vous? Non, il y a beaucoup de gens derrière vous? 2-3, on va aller attendre les 2-3 puis on va commencer. De toute façon, on n'arrivera jamais à être totalement... On y va? Vous avez quelle heure? Vous avez le quart? Il est 15, hein? Donc on y va. On y va, voilà. Donc, cher Danilo, donc tu es bien au Chili, hein, je ne me trompe pas de pays. Oui, c'est bien ça. Donc, tu nous fais l'honneur et nous sommes ravis de t'accueillir dans cette biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles. C'est un long, c'est un peu long, mais ça dit beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est que là, je tutoie ou je vous vois, je ne sais plus, donc je vais dire vous. Non, je vais dire tu. Tu es une référence pour celles et ceux qui ont été formés à la recherche par Jean-Marie Barbier. D'ailleurs, tu étais venue comme invitée dans notre séminaire doctoral. Moi, j'étais jeune doctorante à l'époque, et donc ça fait longtemps. Mais effectivement, surtout parce que tu fais partie de ces sociologues qui ont montré la volonté de construire des représentations globales de la réalité pour avoir une prise sur cette réalité. Et donc c'est, comme tu as écrit d'ailleurs, un ouvrage sur les sociologues, hein, sur les sociologues modernes, eh bien tu en fais partie, bien sûr, une sociologie qui cherche à rendre compte de l'expérience directe des humains. Voilà, vraiment de ce qui est vécu dans notre je sais pas si on peut dire contemporanité, voilà. Donc dans cette réalité contemporaine en tout cas, et il se trouve que l'expérience étant le thème de notre biennale, tout naturellement Jean-Marie a pensé à toi tout de suite. Hein. Donc tu fais partie des gens qui nous aident à penser cette expérience. Donc l'exploration de la condition moderne et des dominations ordinaires, hein, c'est ton sujet de prédilection, sont tes objets de réflexion. Donc il y a toutes les publications que vous pouvez retrouver donc à la librairie. Hein, donc à chaque fois qu'il y a un intervenant, on a fait en sorte que les livres soient disponibles. Hein, donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à demain 14h si je ne m'abuse pour acheter les livres. Donc la question qui traverse notre époque, en fait, c'est comme ça aussi que le formulait Jean-Marie, c'est la question de l'injonction de subjectivité, hein, qui finalement à la fois constitue notre univers mental, mais aussi nos environnements, on en a parlé ce matin, nos environnements d'incertitude, qui sont toujours plus anxiogènes d'ailleurs. Donc c'est vraiment le titre de cette intervention, « Expérience et épreuve de la vie ». Donc on va t'écouter avec grand plaisir et on te remercie beaucoup chaleureusement. Est-ce que vous nous dites tout de suite si il y a des problèmes d'écoute, hein, vous nous faites signe tout de suite, d'accord? C'est bon.
Merci beaucoup Martine pour la présentation. Merci aussi aux organisateurs de la Biennale pour l'invitation. Et bien sûr, on pensait des gratitudes et reconnaissance très particulières envers Jean-Marie Barbier. L'épreuve est une modalité de mise en épreuve de l'expérience humaine et sociale. Autant dire qu'il s'agit d'une matrice d'énonciation, d'apparition et d'intelligibilité. C'est une notion transhistorique et transcivilisatrice. On la retrouve dans la parabole biblique, dans un nombre infini de contes et de romans, dans les hagiographies, dans des sagas scandinaves, dans des épiques indiennes, dans des récits d'héroïsme, et j'en passe. Et là, comme toute notion sociologique des sciences humaines et sociales, la vocation de raconter quelque chose sur la vie sociale. C'est une caractéristique commune avec toutes les grandes catégories de la pensée sociale. Reproduction, inégalité, domination, patriarcat, anomie, cage d'acier, modernisation, progrès bien entendu. Chacune de ces notions nous raconte quelque chose sur la vie sociale. L'épreuve a la même vocation, mais avec une manière particulière d'agencer les biographies individuelles et l'histoire collective. C'est, autant dire, une manière spécifique d'exercer à l'imagination sociologique. Je vais essayer de dérouler le raisonnement en deux grands moments. D'abord, sera plus rapide, pourquoi devons-nous, en tant que acteurs des sciences humaines et sociales, nous intéresser à la notion d'épreuve? Et la deuxième, c'est comment pouvons-nous traduire la notion d'épreuve dans un outil heuristique de recherche. Premier point, pourquoi? Dans l'essentiel du XXe siècle, on a rendu compte, on a analysé les expériences humaines à partir des grandes identités collectives. Il y a eu une sensibilité, toute proportion gardée, relativement réduite envers les différences intragroupales et même les différences interindividuelles. On n'a jamais ignorer l'hétérogénéité des groupes. Mais on n'a pas été particulièrement sensible à cette diversité. On a construit des agrégations statistiques, des types sociaux, des grandes notions de personnages sociaux. Et lorsqu'on était conscient de l'hétérogénéité, ça a été très fréquent à propos de la classe ouvrière, par région, par métier, par qualification, on était sûr, et on a toujours voulu, gommer ces aspérités, cette diversité, à partir des modèles de fédération politique et narratif relativement homogènes. Disons que la condition sociale a largement primé sur les expériences individuelles et humaines. Ça a été l'âge d'or des grands nombres, des sujets collectifs, de l'épure du personnage social. Je reviendrai dans un moment. Depuis quelques décennies, en fait, de manière assez visible dans la première quart du XXIe siècle, différents phénomènes sociaux, très importants, structurels, nous invitent à modifier notre manière de raconter la vie individuelle, mais aussi la vie collective. Je dirais simplement deux grands processus. Il y en a bien d'autres. D'abord, l'individualisation, au sens le plus précis du terme, la multiplication des injonctions institutionnelles et des prescriptions individualisées pour les acteurs. On nous enjoigne de plus en plus, dans différents domaines, à être les acteurs, à être capable véritablement de produire nos réponses personnalisées à ceux qui nous adressent, à les demandes qui nous adressent les institutions. Et ensuite, la singularisation, un processus plus large qui traverse différents domaines de la vie sociale, visible dans la production des biens et des services, dans la consommation, dans nos principes de sociabilité, et les goûts pour les relations affinitaires, mais aussi dans l'idéal de justice. Aujourd'hui, la bonne institution est celle qui est capable de traiter les cas individuels en tenant compte des singularités de chacun, enfin bien sûr dans les manières où nous racontons et nos récits collectifs. Tout ça fait que nous avons passé progressivement dans une société où nous avons d'autres exigences d'analyse, d'autres besoins de récits, en fait une nouvelle sensibilité sociologique. Hier, on a été extrêmement sensible au groupe, aux homogénéités, est relativement peu enclin à reconnaître ou aborder les hétérogénéités. Aujourd'hui, presque à l'inverse, nous sommes de plus en plus sensibles aux différences intragroupales, à la diversité interpersonnelle, et nous voulons tenir compte. Pour que tout le monde comprenne dans cette salle rapidement de quoi il s'agit, lorsqu'on fait des entretiens sociologiques, il est fréquent, depuis des décennies, Que les gens disent aux sociologues, je m'adresse spécifiquement sur ces points aux sociologues, mais c'est pareil dans d'autres types de métiers, qu'en réalité, on n'aime pas les sociologues ou la sociologie parce qu'on n'aime pas être mis à l'intérieur d'une case sociologique. La plupart de mes collègues pensent qu'il y va d'une résistance à l'analyse. C'est peut-être en partie vrai, mais il y a aussi autre chose. Les individus vivent désormais dans des univers de représentation culturelle où ils ont accès, ils veulent valoriser leur singularité, là où la sociologie continue parfois à faire des analyses un peu trop fordistes. Deuxième question, que sera l'essentiel de ce topo. Une fois que l'on accepte qu'il y a un certain intérêt structurel pour développer, mobiliser la notion d'épreuve, comment peut-on le faire? Comment peut-on faire de la notion d'épreuve un véritable outil heuristique dans la recherche? Je vais le faire en privilégiant six grandes dimensions, chaque fois en essayant de montrer la racine sociale et aussi la manière de la traduire en notion sociologique. Première caractérisation, première dimension, renvoie à une caractérisation d'ensemble de la notion. Je veux partir des récits traditionnels, de la mise à l'épreuve. Et ensuite, je vais voir comment elles doivent s'adapter pour rendre compte des spécificités de la société contemporaine. Dans les récits traditionnels, mais aussi dans les mobilisations ordinaires des acteurs, où l'épreuve renvoie presque toujours à une expérience difficile de la vie, il est possible de différencier quatre grandes dimensions. D'abord, un type d'épreuve. Dans les récits traditionnels, ça a été souvent lié à un récit, un rythme de formation, à un rythme d'initiation, et parfois, c'est très important, à quelques cas d'héroïsme. Deuxième niveau, c'est la formation. Dans les récits traditionnels, il s'agit toujours d'un moment particulier dans lequel l'impétrant va suivre les conseils d'un maître. Il y a le troisième moment, c'est la mise à l'épreuve proprement dite, ou dans lequel l'acteur se mesure à un défi et il sort souvent vainqueur de l'épreuve. Et enfin, il y a, j'isole cet élément, le dénouement. C'est-à-dire que, grâce à l'épreuve, l'acteur va acquérir souvent un statut, plus ou moins définitif. Mais dans le récit traditionnel, on s'intéresse peu à ce qui arrive après. Type d'épreuve, formation, mise à l'épreuve, dénouement. On peut trouver ces quatre grands éléments à peu près dans toutes les mobilisations de la notion d'épreuve. Mais comment pouvons-nous, en tant que dans la science humaine et sociale, mobiliser cette notion pour l'adapter au changement de société contemporaine? Je pense que chaque moment doit connaître des inflexions considérables. Premier point, c'est le fondamental, il s'agit de rendre compte d'un nombre très vaste, varié et différent d'épreuves. Les épreuves sont historiques, sont structurelles, sont plus ou moins formatées, ils changent d'une société à l'autre. Dans notre société, les épreuves doivent nous servir pour rendre compte d'un nombre très grand de mises à l'épreuve des individus dans un domaine très différent de la vie sociale. Les épreuves sont toujours structurelles et formatées, les réponses individuelles, je reviendrai progressivement, sont toujours singulières. Deuxième point, les moments de la formation est toujours spécifique dans certains domaines, comme l'école ou quelques formations pour véritablement organisées professionnelles. Mais la plupart des processus de formation des apprentissages vis-à-vis des épreuves et de notre nature. Elles se produisent comme des décantations des savoirs d'expérience au bout d'un parcours, des formes de cheminement très différentes. Et donc, là encore, la formation ne peut plus se réduire lorsqu'il s'agit des épreuves uniquement à des processus formalisés. Troisième niveau très important, c'est la mise à l'épreuve. Là encore, dans les récits traditionnels, c'était un moment très précis, très bien circonscrit. Nous avons, au contraire, dans notre société, appris à comprendre que le moment de l'épreuve, ce n'est pas un grand moment T spécifique. Au contraire, la mise à l'épreuve s'est faite face à des défis peu formalisés, qui se répètent, plus ou moins réversibles, parfois contradictoires, et dans lesquels, sauf quelques cas particuliers, comme les concours, où les différences initiales peuvent donner des résultats très différents au bout, en réalité, c'est un processus presque sans terminus au long de l'existence. Et enfin, quant au dénouement, si les récits traditionnels nous racontaient que lorsqu'on avait dépassé une épreuve, on a été capable d'acquérir définitivement un statut, ce n'est nullement le cas dans nos sociétés. où se répand l'idée qu'aucune épreuve, ou très peu, tranche véritablement le destin de quelqu'un, qu'on peut réussir ou échouer, que les processus sont infiniment plus dynamiques et surtout contradictoires. Le dénouement de l'épreuve au travail n'est pas le même nécessairement que le dénouement de l'épreuve à la famille. Et surtout, plus important, nous sommes conscients qu'après l'épreuve, il y a une vie après l'épreuve. Pour le dire de manière très simple, les films d'Hollywood finissaient souvent dans les années 50 avec le baiser si final. Maintenant, nous savons qu'après le baiser final, il y a une vie de famille, des déboires conjugaux, des moments de lumière, parfois des séparations et parfois des nouvelles aventures romantiques. La formation et la notion même d'épreuve, pour être mobilisée comme outil heuristique dans les sciences sociales, doit connaître un nombre très important des changements. Nous gardons toujours les dimensions. Type d'épreuve, formation, mise à l'épreuve, dénouement, mais nous devons comprendre que tout ça doit se travailler de manière dynamique dans nos sociétés. Deuxième dimension très importante, les épreuves nous permettent ou participent à ces processus plus généraux d'individualisation des récits. Et là encore, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Les industries culturelles et les fictions ont toujours articulé d'une manière particulière les collectifs et l'individuel. Mais pendant longtemps ça veut dire plusieurs siècles, ceci s'est fait au travers de quelques types. C'était la grande logique des caractères, des Grecs jusqu'au grand siècle français. L'avare, les misanthropes, les jaloux, etc. Les mondes de Shakespeare, si vous voulez, où les passions emportent. Et il s'agit de décrire des grandes passions humaines au-delà même des conditions sociales. Et puis, avec les romans, depuis le XVIIIe siècle, la sociologie a emprunté la catégorie des mises en forme des romans ou de la fiction, dans laquelle la notion centrale était le personnage social, la mise en situation sociale d'un individu, d'un protagoniste, qui était à la fois un représentant typique et topique d'un groupe social. Ce qui se passe dans nos fictions contemporaines, avec des nuances évidemment qu'on doit introduire, c'est que nous sommes de plus en plus sensibles à la singularité des personnages. Et je pense qu'aucun autre matrice de représentation ne le montre mieux que ce qui se passe dans les séries de télévision. Après tout, les principaux supports narratifs de nos sociétés actuelles. Dans les séries de télévision, on décrit finement les milieux sociaux. Les protagonistes ont une identité sociale, femme au foyer, mafieux, professeur de chimie, mais en réalité, ça ne nous dit pas grand-chose de ce qui se passe au niveau de la subjectivité, de l'intériorité, voire même dans le profil du personnage. Ils sont tous fêlés, troubles, troublés, troublants, énigmatiques. Nous avons, grâce à ce type de récit collectif, expérience de masse, appris à individualiser nos représentations culturelles. Nous sommes de plus en plus sensibles, et c'est l'importance de l'intrigue chorale, mais aussi des séries de télévision, au rôle des personnages secondaires. Longtemps, ils étaient plus ou moins oubliés. Aujourd'hui, chaque personnage secondaire a sa spécificité. En bref, tout se passe comme si la notion, l'épure du personnage social, ne permettait plus vraiment de rendre compte avec finesse de la singularité de chaque acteur individuel. Disons-le de cette manière, les expériences sociales, les expériences humaines deviennent de plus en plus importantes et parfois primes sur les conditions sociales. Hier, on a eu des fictions qui avaient la capacité de donner une représentation collective, mais peu sensible à la singularité des personnages. Aujourd'hui, nous avons des récits, des témoignages, qui sont de plus en plus sensibles à la singularité de chacun, mais qui ont parfois du mal à dégager les conditions collectives. L'épreuve, en tant qu'outil heuristique pour la recherche en sciences sociales, est en phase avec ces changements. Il nous rappelle que les épreuves sont structurelles, formatées, rationalisation de la modernité oblige, la société est une machine à fabriquer structurellement de manière commune des épreuves, mais que les réponses de chacun sont hautement singulières. Troisième grand intérêt, la notion d'épreuve. Elle propose un équilibre, un nouvel équilibre entre le pâtir et l'action. Entendons par acteur celui qui transforme son environnement. Et ajoutons que la notion d'épreuve oblige à accentuer, voire à ajouter des dimensions subjectives, des perceptions à cette caractérisation de l'acteur. Lorsqu'on agit, on a un rapport unilatéral, unidimensionnel, sans circonscrit au monde. Lorsqu'il est question du bâtir, il y a un élargissement du moi, parce que nous sommes affectés, impliqués plus largement par les mondes. Ça peut sembler d'abord un peu contre-intuitif, mais il va de soi que les bâtir suppose une implication au monde élargie par rapport à l'action humaine, nécessairement circonscrite. Eh bien, s'agissant de l'épreuve, on a une vision particulière de l'acteur, et c'est lui qui se mesure à un défi, c'est-à-dire c'est lui qui doit faire un effort, qui connaît la réalité d'une épreuve qui, de toute manière, est éprouvante et qui, de toute manière, suppose une implication. Mais il y a aussi l'idée que l'acteur a des empowerments, des empouvoirments plus ou moins importants, grandes caractéristiques de société contemporaine. Et ici, il y a l'idée que pour bien comprendre ce qui se joue dans nos épreuves, dans la vie sociale, mais aussi parfois dans la vie humaine, nous devons tenir compte de la subjectivité, de l'intériorité, des émotions, je dirais même du caractère harassant, du caractère ordinaire harassant de la vie sociale. Vous me comprenez ce que je veux dire? Malgré la fréquence statistique de la reproduction des classes, malgré la fréquence statistique des séparations, l'une et l'autre sont des épreuves qui ont besoin du travail, de l'implication, et parfois des déboires, des difficultés. Parfois, la fréquence statistique, je pense concrètement à la séparation conjugale, cache une des expériences parmi les plus difficiles que peuvent vivre hommes ou femmes dans nos sociétés contemporaines. J'ai un autre exemple pour mieux comprendre ce que ça veut dire les pâtir. On a profondément changé notre expérience vis-à-vis de l'environnement. Ce n'est pas forcément nouveau. Dans les mondes de l'éducation, les analyses de l'action située avaient montré qu'en situation sociale, les élèves pouvaient avoir des compétences arithmétiques qu'ils n'avaient pas à l'intérieur de l'école. La cognition distribuée nous a montré depuis déjà plusieurs décennies qu'il fallait tenir compte de l'appareillage technique pour comprendre les compétences des acteurs. Mais c'est vrai que désormais, nous avons une vision élargie de l'agentivité des contextes. Les objets smart, dispositifs, l'intelligence artificielle. Nous échangeons avec des chatbots, avec ces phénomènes relativement nouveaux. L'humanité a longtemps parlé avec des dieux, les montagnes et les animaux. Maintenant, nous parlons avec des dispositifs techniques sans que cela bouleverse nécessairement nos habitudes, mais qui pose des défis évidemment majeurs à nos relations avec les autres. Eh bien, dans cette représentation culturelle qui s'est modifiée aujourd'hui, certains pensent qu'il faut mettre en question la frontière entre les humains et les non-humains, reconnaître les autres êtres vivants, pour aussi parfois abolir la différence entre les deux autour d'une notion de latent. Je pense que la notion d'épreuve permet de donner une vision particulière de ces modifications des environnements. D'un côté, comprendre qu'il s'agit d'une épreuve historique, structurelle, qui a des changements, liés pour beaucoup, pas seulement, mais pour beaucoup, à la technique, que cela entraîne des modifications de la représentation culturelle, mais qu'en même temps, nous devons garder les bien fondés de la frontière entre les humains et les non-humains, puisqu'il y va de la notion spécifique de l'agentivité, de l'intentionnalité et de la responsabilité humaine. Les pâtir, en tant qu'élément majeur des épreuves, nous obligent à comprendre que nous vivons de plus en plus, nous tous, dans des sociétés marquées par une profonde mobilisation généralisée, contrainte, dans tous les domaines de la vie. Le travail, l'école, les formations tout au long de l'existence, la consommation, évidemment les loisirs, et j'en passe. La capture ordinaire de notre attention par les réseaux sociaux. Nous sommes de plus en plus mobilisés de manière contrainte par la société et parfois nous avons peu d'adhésion à ce pourquoi, de la manière dont nous sommes mobilisés. Ça définit une expérience historique particulière, les caractères harassants, ordinaires de la vie sociale. Les incertitudes dont parlait Martin au moment, il y a un instant, dans la vie quotidienne. Il y va alors, grâce au pâtir, d'une manière de comprendre les propres, de l'héroïsme de la vie moderne, de la société contemporaine. Deuxième grande dimension, l'épreuve nous permet d'avoir accès à une forme de critique de la société. En fait, il y a ici des promesses et des dangers. D'abord, des dangers. Il y a un récit aujourd'hui très construit, avec des dérives idéologiques, néolibérales, libertariennes, qui nous disent que les individus doivent devenir des véritables self-made men, des sujets self-entrepreneurs qu'ils doivent réussir et sortir vainqueurs de toutes les épreuves de l'existence. Une vision non liée, évidemment, matinée des éléments masculinistes et qui a des clairs dérives idéologiques. Et puis, il y a la notion d'épreuve qui peut aussi être une promesse critique, qui nous rappelle les inégalités et les différentiels des supports des uns et des autres pour affronter les épreuves, mais aussi l'arrogance de ceux qui sortent vainqueurs des épreuves, la critique à la méritocratie de Jung depuis 1958, l'intérêt pour l'essor des perdants, bref, une sensibilité différente à ce que les épreuves font aux uns et aux autres dans la société. Ça permet, par exemple, des comparaisons internationales entre les sociétés comme celle de l'Europe, où les individus affrontent les épreuves grâce à une assistance institutionnelle et des droits sociaux et services publics, et les sociétés, mais je pense concrètement à l'Amérique latine, où les individus affrontent les épreuves de manière beaucoup plus solitaire, par des réseaux de sociabilité qu'ils doivent construire de manière relativement dépourvue des supports institutionnels. Tout ça fait qu'évidemment, la conception des épreuves varie. Il ne s'agit plus simplement de faire éloge des vainqueurs et de la réussite, mais d'être conscient à la vulnérabilité de chaque acteur et aussi à la possibilité des épreuves de détruire les acteurs individuels. Par cette notion critique, l'épreuve alimente une nouvelle version de la justice, celle qui va insister sur la nécessaire réversibilité des épreuves, ce qu'on appelle la seconde chance, dans les différents domaines de l'existence, mais aussi va alimenter des études très précises qui vont nous montrer que, ayant des ressources semblables, les expériences de l'injustice peuvent être très différentes. C'est ce que l'économiste Amartya Sen a très bien montré à propos des handicaps. Quelqu'un peut être riche, mais en ayant tant handicapé, va avoir une expérience des inégalités très différente. La singularisation de nos perceptions des injustices est aussi quelque chose qui exige mobiliser de cette manière la notion d'épreuve. Et enfin, il y a quelque chose aussi d'encore plus importante, que c'est que la notion d'épreuve nous renvoie véritablement à une autre expérience critique, spécifique, parfois appelée la philosophie sociale. Celle qui démarre avec, disons, Jean-Jacques Rousseau, la corruption des individus par la société. Cette tradition rousseauiste a connu bien d'autres versions dans les sciences sociales, l'aliénation, la réification, le capitalisme, l'anomie, les échecs de la socialisation. Bref, tous ces processus de domination et d'autres qui véritablement noircissent les individus, avilissent les acteurs individuels. Et c'est ça le plus essentiel. Les épreuves nous rappellent la possibilité de faire une autre critique de la société. L'important, ce n'est pas forcément réussir ou échouer face aux épreuves. Au-delà de l'héroïsme individuel, l'essentiel, c'est comprendre qu'il y a des épreuves qui, par sa structure, avilisent les acteurs. Que même lorsqu'on réussit, on est empreinte des éléments de noirceur. Combien de personnes du sud global liées à la migration sont obligées de couper court à la relation familiale? Combien des amitiés se détruisent par des départs contraints? Combien de peurs sont produites par l'extension de certaines formes des épreuves? La notion d'épreuve est une modalité de critique particulière de la société, où l'importance se joue autour de la nature des épreuves, comment elles nous avilissent collectivement, indépendamment de la question de réussir ou d'échouer face à elles. Cinquième grand moment, dimension de l'épreuve, qui explique, je pense, son intérêt, c'est qu'il y a dans les épreuves une promesse du commun particulière. L'épreuve, c'est une autre manière de faire groupe. Là encore, je reviens un peu en arrière. Pendant longtemps, dans la sociologie, il y a eu une seule grande manière de penser l'identité des groupes, et surtout l'instauration de la plainte. Il fallait subsumer les particuliers d'un général, monter en généralité, qui au fond était peu sensible aux spécificités singulières des uns et des autres. Aujourd'hui, au contraire, sans que cette voie soit abandonnée, nous sommes de plus en plus sensibles aux dimensions singulières, au fait de travailler par une logique d'échelle, que les individus doivent pâtir, doivent faire état de leur souffrance ou de leur difficulté en première personne, dans lesquelles on est sensible aux cas individuels et surtout la singularité nous interpelle de plus en plus en tant que singularité. Dans cette autre manière de faire groupe, je pense que la sociologie a tout intérêt à s'inspirer de l'art. Après tout, depuis toujours, les fictions ont eu cette capacité à nous montrer qu'on pouvait s'intéresser, s'impliquer dans la vie des autres, même lorsqu'ils étaient très éloignés ou très différents de nous. Les cultural studies ont fait des travaux très importants pour montrer à quel point, dans une seule soirée, un individu en regardant la télévision pouvait s'identifier, ont-ils dit, à un homme très grand de la protagoniste dont il n'avait rien en commun. Mais la fiction avait la capacité de nous faire goûter la vie des autres. Je ne sais pas si le mot d'identification est correct. Disons plutôt, nous force à nous alimente en nous une modalité de l'empathie très particulière. La question est évidente. Comment peut-on, par les épreuves, passer de cette empathie narrative envers quelqu'un d'autre vers la production d'une solidarité? Avant d'essayer de donner une piste de réflexion, un constat initial. C'est par les épreuves personnelles que, dans un nombre très important de situations sociales, les acteurs racontent leurs conditions. Ça a été le cas dans les Gilets jaunes en France, ça a été le cas des plaintes des stagiaires sociaux un peu partout dans le monde, c'est évidemment la grande force du féminisme depuis plus de 50 ans. Évidemment, parfois, dans ce type d'expérience, certains critiques parlent d'une litanie de déboires personnels qui n'arrivent pas à déboucher sur des revendications politiques, sur une plateforme politique. Ils accusent cette narration des épreuves d'être trop différente, en réalité de se désintéresser des causes des épreuves, d'être incapables de signaler des responsables, voire même de se traduire dans une liste opérationnelle de revendications. C'est probablement une erreur. Ces épreuves, racontées de manière très singulière, ne sont jamais une liste à la Prévert. Il y a, dans cette manière de raconter, une expérience sociale, une manière de produire autrement les communs, en accentuant des épreuves qui sont structurelles, historiques, communes, qui se déclinent très diversement, au-delà parfois des positions sociales ou des identités spécifiques, et qui rencontrent à la fois de cette articulation du singulier avec les commandes. Certes, il y a des soins. La manière de nous intéresser aux autres, l'empathie, a des limites. Nous savons que l'attention de l'opinion publique est capricieuse, sélective, à géométrie variable, inconstante, et parfois même produit de l'insularité. Mais ça, ça veut dire que, malgré les travaux qui commencent à se faire, nous devons aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi et comment, à quelles conditions, l'opinion publique est réactive ou non, et pour combien de temps, et sous quelle modalité, à l'expérience des autres et à les besoins de l'empathie. Il y a une phrase, peut-être certains d'entre vous la connaissez très bien, de l'acteur et humoriste états-unien Robin Williams, qui énonce très bien la force des épreuves dans ce registre. Je cite la phrase: « Chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien. Soyez gentil, toujours. » Je laisse de côté les deux dernières phrases, que pour beaucoup de scientifiques sociaux doivent être déplacées ou naïves. Et je reviens à la première phrase. Je répète, chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien. Il y a dans cette phrase, au travers des épreuves subies par les autres, un principe de la vie en commun qui est infiniment plus profond et en phase avec nos sociétés que la seule tolérance aux idées d'autrui. Il y va d'une reconnaissance réciproque de l'effort et de l'épreuve subis par les uns et les autres. Il y va surtout de la nécessaire dialectique que nous devons de plus en plus établir entre l'empathie et la sympathie. De l'empathie et la sympathie. L'empathie est pour les gens ordinaires, mais surtout aussi pour les scientifiques sociaux, une obligation herméneutique. Nous devons être capables de comprendre les autres, nous mettre à leur place. La sympathie, en revanche, en tant que sentiment moral, suppose une liberté de jugement. Nous sommes obligés de comprendre les autres, et l'empathie est de plus en plus une exigence de société vis-à-vis des gens distants et différents. En même temps, nous devons préserver la force morale de développer ou pas des sympathies morales envers les autres. Enfin, sixième et dernière dimension, l'essence des épreuves de la vie. Avant de décliner les épreuves, je rappelle quelque chose assez banal. les analyses sociologiques, toutes les grandes notions des sciences humaines et sociales, sont une manière de raconter, d'expliquer l'origine du mal dans le monde. À la place de ce qui ont proposé certaines théologies, le mal provient par exemple, rappelant cette tradition du péché originel, les sciences sociales proposent d'autres interprétations du mal, les échecs de la socialisation, la domination, l'aliénation, le capitalisme, et j'en passe. Les sciences sociales nous racontent, nous expliquent, décrivent le mal dans le monde. Parfois, ces dimensions morales dans les sciences sociales est évacuée ou minimisée, et pourtant il faut accepter qu'il est là, et que c'est une partie importante de ce que les sciences sociales nous ont permis de donner comme intelligibilité de notre époque. La force de la notion d'épreuve est qu'elle affronte ces défis de manière directe, c'est-à-dire reconnaît sa dimension morale, et comprend aussi que ce n'est pas la même chose chercher l'essence des épreuves dans une société enchantée ou désenchantée. Dans une société enchantée, les acteurs mobilisent les rôles des entités invisibles, sort, démon, Dieu. Dans les sociétés sécularisées, c'est plus compliqué, mais il suffit d'avoir fait des enquêtes sur ces domaines pour comprendre que d'une manière ou d'une autre, les individus mobilisent des croyances plus ou moins enchantées sur ce qui leur arrive, les destins d'incertaines, les superstitions personnelles. En fait, par l'essence des épreuves, ce qui est en question, c'est l'engrenage entre les actions et les mondes. Autant dire, l'essence du tragique de notre société. Lorsque j'ai mené des enquêtes depuis plusieurs années sur l'individuation en France ou en Amérique latine, j'étais frappé de constater qu'au travers des récits, il y avait quatre grandes figures du tragique, souvent à l'œuvre. Le premier, je pense, qui renvoie vraiment à la tradition grecque, les combats entre la liberté humaine et la nécessité du monde, qui s'expriment dans les sciences sociales avec différentes croyances dans le déterminisme sociologique. Le deuxième peut renvoyer la figure de l'honnête homme, les conflits entre les devoirs moraux et les inclinations personnelles, le cycle de Corneille, si vous voulez, si présent dans la société au travers différentes manifestations de la culpabilité. Et puis, il y a la figure du tragique de la guerre des dieux, on dirait Weber, c'est-à-dire l'effet qu'on est confronté, les incertitudes, encore une fois, à des orientations d'action différentes, non hiérarchisées les unes des autres, et qui donnent souvent lieu à des expériences d'ambivalence, d'hésitation, d'indécision collective. Et enfin, il y a la quatrième figure, plus tardive peut-être, celle de la pure cruauté objective du monde. Toutes les figures tragiques sont difficiles, complexes. La dernière est particulièrement harassante, parce que, comme les philosophes de l'existence l'ont montré, il n'y a pas de quête à dévoiler, il n'y a pas de signification cachée à chercher. Et donc, la production d'un sens à ce qui nous arrive est particulièrement complexe et difficile. L'école est un domaine particulier pour comprendre l'essence de ses preuves de cette manière. Les vénérables récits romantiques de la Bible d'un roman, c'est-à-dire la phase de formation et d'éducation de soi, n'est plus en phase avec ce que je viens de raconter sur les épreuves. Mais il va de soi que l'épreuve scolaire ne peut pas être racontée seulement en termes de reproduction, des inégalités, des méritocraties ou des capitales humains, sinon au prix d'amputer l'essentiel de sa signification subjective. Les épreuves de l'école doivent se comprendre à l'intérieur d'un continuum plus large. L'épreuve scolaire a sa spécificité, mais il s'inscrit à l'intérieur d'une chaîne plus longue, qui démarre bien avant l'école et qui souvent ne finit jamais. Les épreuves auxquelles nous devons penser résultent d'un long processus d'apprentissage très différent, par corps interposé, par des savoirs de l'expérience, par manière d'être et de faire, par cette phrase si ordinaire que nous entendons souvent, ceux qui disent « par les épreuves de la vie, j'ai gagné en humanité ou en profondeur », transformation en forme de sagesse dans une vieille vertu chrétienne. Mais il y a aussi le fait que, face aux épreuves, tel que j'ai essayé de le présenter, il y a une expérience d'acheminement dans laquelle les gens essayent d'apprendre, de ne pas se retrouver dans la même situation, dans la répétition de certains traumatismes. Ceux qui ont vécu le chômage, qui ont connu une séparation, les femmes plus que les hommes d'ailleurs, essayent de ne pas se retrouver exactement dans la même position d'échec. La Bible d'un roman, ce vénérable récit romantique, j'insiste, ne peut pas nous servir pour décrire tout cela. Dans la Bible, dans ce roman, il y a un début et une fin. Et il y a surtout l'idée que c'est lui qui part et pas celui qui revient. Ce récit ne peut pas être le nôtre. Nous avons besoin de raconter autrement les chemins et les cheminements, les essais et les erreurs, la manière dont, au travers des trajectoires très singulières, se décante, se sédimente une forme de connaissance de nous-mêmes et du monde. Que l'important, ce n'est même pas les vérités acquises ou les positions définitivement atteintes, mais en réalité, l'important, c'est la dynamique, les processus. Parfois, lorsque on essaye de synthétiser ce que quelqu'un a appris au long de son cheminement personnel, les formules sont particulièrement simplistes. Connais-toi toi-même. L'important dans ces affaires de sagesse, dans les épreuves contemporaines, dans la quête du sens des épreuves de la vie actuelle, ce n'est jamais le but, ce n'est pas l'objectif, mais c'est l'élément, c'est que c'est sédiment tout au long d'un processus d'apprentissage qui ne peut qu'être profondément personnel. J'ai fini dans 2 minutes. L'épreuve, la notion d'épreuve, la mise en intrigue par les épreuves est omniprésente dans nos sociétés. Dans les récits ordinaires, dans les fictions, dans les prescriptions institutionnalisées, dans la manière où nous sommes en train d'instaurer nos plaintes politiques collectives. Les sciences humaines et sociales doivent être sensibles à cette généralisation et surtout ouvertes aux possibilités que la notion d'épreuve ouvre en tant qu'outil heuristique et que je pense doit d'une manière ou d'une autre reprendre cette caractérisation analytique des 4 grands moments, l'idée de la nécessité d'individualiser nos récits d'analyse, l'effet de chercher un nouvel équilibre entre l'acteur et le pâtir, la nécessité de mettre en place une œuvre de nouvelles conceptions de la critique, une promesse du commun et surtout s'ouvrir à la nécessaire articulation entre la sociologie et une certaine quête des sens individuels. On peut penser que c'est déplacé dans les analyses sociologiques. Je pense que tous les classiques ont été extrêmement sensibles à la manière d'agencer des questions des sens, de répondre à la suscitation diverse des sens qui traversent la société avec la manière dont ils ont essayé de comprendre les grands changements et structures du monde contemporain. L'expérience, c'est la matière première de la vie sociale. L'épreuve est une mise en intrigue particulière de l'expérience. L'épreuve est un exercice d'imagination sociologique. L'effort pour articuler la biographie et l'histoire, les singuliers et le commun, pour affronter surtout la nécessité d'articuler dans nos sociétés contemporaines l'enjeu existentiel avec des questions politiques et éthiques. Merci à la distance pour votre attention.
J'espère que tu entends les applaudissements. Voilà, merci pour cette conférence tout à fait intéressante. Alors, je vais passer le micro, je ne sais pas trop comment je vais faire parce que la salle est très grande, mais juste, effectivement, si l'épreuve est un analyseur, hein, comme tu nous le permets de le penser, comment faire pour ne pas le substantiver, enfin, tu vois, pour ne pas le naturaliser comme on a naturalisé les autres concepts antérieurs. Voilà, juste, c'est une question un peu fleuve, hein, mais c'est juste une réflexion aussi.
C'est une question fondamentale. Je pense que le risque est toujours là, et c'est le risque de n'importe quelle catégorie, concept, notion, sciences humaines et sociales. Mais je dirais que le danger est moindre parce que l'épreuve est véritablement une notion qui permet de circuler entre les sens communs et les sens savants. Parce que les épreuves, mais notamment dans une langue comme la langue française, renvoient toujours à quelque chose de difficile, à une expérience, à quelque chose de vécu. Et de ce point de vue, la grande difficulté, je dirais, c'est plutôt le danger que l'épreuve ne sert qu'à désigner ce qui est difficile dans l'existence et qu'on oublie la nécessité de construire une véritable notion sociologique. Mais je pense qu'il y a là un agencement extrêmement riche entre les expériences ordinaires et la construction du savoir en sciences humaines et sociales.
Merci. Est-ce que tu entends sur ce micro? Oui, c'est bon?
Oui, très bien, Martine.
Alors, on va passer à la salle. Alors, il est tout là-haut. C'est l'épreuve ultime pour mes jambes. Tu veux bien ? Ça t'embête pas ? Si j'ai là, je mange.
T'inquiète pas. C'était vous ?
Bonjour, je suis Marine Moïse, je suis doctorante et en fait j'ai découvert votre notion et votre concept d'épreuve dans la littérature. C'est une notion qui me parle énormément et que je trouve extrêmement pertinente en fait pour comprendre, ça décale le regard en fait, ça le déplace. Et je trouve que c'est très intéressant. J'utilise une approche biographique pour analyser le réaccrochage de jeunes qui ont décroché à l'école, où je viens questionner justement les épreuves qu'ils ont affrontées les épreuves comme vous les définissez, c'est-à-dire situées socialement, structurées, historiquement. J'essaye de pas de faire une catégorisation des épreuves scolaires, mais en tout cas de mettre en avant des épreuves qu'ont pu rencontrer les jeunes que j'ai interrogés biographiquement. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur les épreuves scolaires que peuvent rencontrer les jeunes en dépassant justement cette question de reproduction des inégalités, etc. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la question. Je ne vous vois pas, donc je parle un peu dans le vide. Très bravo pour votre thèse d'abord et pour le sujet qui est extrêmement important. Je vais partir de deux petites choses parce que ça me semble important. Je reviens, excusez-moi, c'est une obsession chez moi, mais je pense qu'il faut bien comprendre la transformation que nous avons vécue. Dans la notion d'une scolarisation classique, en fait, si on essaye de s'en servir de la notion du récit de la vie d'un roman, la formation, l'éducation des soins. Il avait bel et bien l'idée des épreuves extrêmement formalisées, précises et d'un couronnement individuel. Ça a été longtemps une certaine vision de l'éducation. Et ce qui s'est passé depuis quelques décennies, qui s'est même accéléré depuis quelques temps, c'est que, évidemment, cette description des choses ne correspond plus à ce que nous sommes en train de vivre. Et le décrochage scolaire, c'est un formidable outil linguistique pour les faire comprendre. Les épreuves scolaires, vous avez très bien raison de l'énoncer de cette manière, ne se produisent pas, ne se cantonnent plus seulement à l'école. Les expériences de la jeunesse débordent les cadres scolaires. Et la première chose à faire pour comprendre ces épreuves, à cet âge de la vie, c'est d'associer d'une certaine manière ce qui se passe à l'intérieur de l'école avec ce qui se passe à l'extérieur. Pour certaines adolescents, plus cadrées socialement, ce qui se passe à l'école est souvent, encore, relativement central. Pour d'autres parties de la jeunesse, ce qui se passe hors des murs de l'école est infiniment plus important. Et il faut arriver, me semble-t-il, mais certainement c'est le travail de vos thèses, arriver à tenir compte des deux réalités. Savoir que les accentuations ne sont pas différentes, que ce qui se joue à l'intérieur de l'école doit résonner à ce qui se passe à l'extérieur et vice-versa. Et que du coup, la trajectoire, les histoires des uns et des autres ne peuvent pas se réduire au seul constat des inégalités sociales ou reproduction des classes. Il y a des vicissitudes, des avatars, des péripéties et des difficultés subjectives qui sont essentielles. Et que la notion d'épreuve, évidemment, par sa sensibilité qui est bien la leur, nous force justement à essayer d'interroger cette réalité. Je dirais même quelque chose, vous parlez du décrochage. Mais dans les phénomènes migratoires, on est confronté à la même situation. On a longtemps pensé que la migration, c'était partir d'un lieu pour arriver à un autre, et entre-temps avec quelques aventures. Avec la transformation, les murs qui se construisent, et les changements dans les processus même des migrations, individuelles et familiales, nous sommes de plus en plus confrontés à des gens qui n'arrivent pas quelque part, qui restent dans une espèce de boucle permanente, dans lesquelles avancent et font des retours en arrière. Et que la migration, ce n'est pas partir de A et arriver à B, mais c'est de rester véritablement dans un univers en tournant en rond. Le décrochage scolaire, ce n'est pas pareil. Il renvoie à ce type d'expérience, où lesquelles il n'y a plus de dénouement définitif. Et que la propre expérience du décrochage scolaire, la propre expérience de l'échec scolaire, doit se comprendre à l'intérieur d'un processus infiniment plus long d'apprentissage et de formation, mais aussi de destruction, parfois, de soi-même.
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bien pour ça que j'utilise une approche biographique. Merci beaucoup.
Buenos días, Danilo. Bonjour. Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Ok. Merci pour votre présentation. Alors, votre présentation me stimule une réflexion qui va du côté de la nature des épreuves. Donc, d'une part, il y a des épreuves peut-être qui ont un caractère structurel, structurante, la pauvreté par exemple. Et il y en a d'autres qui nous tombent un peu, non? Comme une maladie, non? Il y en a peut-être des sortes différentes des natures, donc de ces épreuves-là qui me semblent intéressantes et à penser aussi pour finir la question. Et des deux, suite à cette première réflexion que je vous partage, et dans quelle mesure il n'y a pas une sorte d'aporie entre les missions de l'école, justement, ou du système éducatif, et comme étant au moins armer les gens pour faire face à un certain ensemble d'épreuves, et en même temps et poser aussi des épreuves aux individus. Donc voilà.
Merci beaucoup pour cette très belle question et les réflexions, les commentaires. Il y a des épreuves effectivement qui sont structurelles, relativement classiques, qu'on peut corrélé à certaines conditions sociales. La pauvreté est un bel exemple. Et ensuite, il y a la prise en considération auxquelles les épreuves nous forcent, que lorsque on affronte les épreuves de la vie sociale, il n'y a pas une corrélation parfaite entre la ressource et la réussite. Je veux dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de ressources et qui échouent. Il y a des personnes qui ont peu de ressources mais qui arrivent à s'en sortir. L'essence de ce que c'est, entre guillemets, réussir ou échouer est lui-même subjectif, ouvert à un certain nombre de travail. Et surtout la notion d'épreuve, mais ça renvoie, ça fait lien avec la notion que vous avez introduite du hasard, fait intervenir comme notion clé la contingence, c'est-à-dire la non-nécessité ontologique des événements. Bien sûr qu'il y a des corrélations statistiques, des probabilités très fortes, qu'en fonction d'une position de classe, quelqu'un ait tel ou tel résultat. Mais c'est une probabilité. Lorsqu'on descend au niveau de l'itinéraire biographique, la contingence devient la vérité essentielle de la vie collective, la non-nécessité des événements, dans lesquels, à terme, N égale 1. Et nous ne pouvons pas, malgré les croyances de certaines dans les déterminismes sociologiques, parvenir à déterminer cette part. Et donc l'épreuve, c'est une manière de laisser toujours ouvert, malgré les inégalités des conditionnements, l'espoir et le futur des uns et des autres. Et ensuite, il y a la deuxième question, c'est un commentaire que vous glissez, qui est tout aussi importante. Je pense effectivement qu'un des paradoxes de l'école, vous l'avez énoncé très bien, c'est que d'un côté, c'est une machine de sélection sociale, de plus en plus importante de la société contemporaine. Et qu'en même temps, au fond de l'école, le plus important de ce qui se passe à l'école, c'est un long processus non exclusif, mais aussi essentiel, des formations du caractère de chacun. Et que l'école aujourd'hui, quelque part, d'un certain nombre d'élèves, est en tension entre ces deux grands horizons. D'un côté, je laisse de côté la transmission des savoirs et d'autres, d'un côté, il y a cette machine de sélection, et de l'autre côté, cette obligation de formation du caractère. Parfois, la sélection devient la seule manière dont l'école pense pratiquement des preuves. Et du coup, tout ce qui renvoie à la nécessaire formation de la force de chacun, de l'endurance, de la manière de rebondir, de la manière de faire corps avec ce qui arrive, de la manière de se structurer en caractère et parfois de laisser. C'était des dimensions essentielles, là pour le coup, dans le récit de la ville d'un roman romantique, et que c'est évident, placé au cœur de l'éducation contemporaine, peut-être plus que jamais, face aux incertitudes de l'époque contemporaine.
Bonjour Danilo, Je suis Gabriella Valenté, je suis maîtresse de conférences à Toulouse et j'ai travaillé dans ma thèse avec les théories de la socialisation. J'ai travaillé au Brésil, donc on a eu l'opportunité d'échanger en ce moment-là, mais j'aimerais savoir, parce que ce que je vois, c'est que vos travaux ont avancé par rapport à la notion des preuves que vous avez utilisées à l'époque, ça commence à dater, et maintenant, et j'aimerais que vous parliez de cette articulation. Est-ce qu'il y a une articulation entre les preuves et les processus de socialisation, où on continue focalisé sur la question de l'individualisation? Il fait plus partie du processus d'individualisation ou du processus de socialisation? Et donc, comment ces processus de socialisation, comment vous les voyez? Merci.
Merci pour la question. Je vais essayer de donner comment je vois les termes. Ce n'est pas pour les imposer à personne. Lorsqu'on mobilise la notion de socialisation, quelle que soit la théorie sociologique ou psychologique d'ailleurs que l'on mobilise, il s'agit de rendre compte du processus, disons, de formation socio-psychologique de l'individu. L'acquisition des compétences, d'une langue, des savoir-faire, être, etc. Lorsqu'on utilise la notion d'individualisation, de manière très précise dans les langages sociologiques, ça renvoie à ce que dans la tradition allemande et anglaise définit un mode spécifique de fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, de plus en plus, les institutions ne s'adressent plus aux groupes, mais véritablement aux individus. Des prescriptions individualisées, enjoignant chacun à développer sa propre réponse, à être l'auteur de sa véritable, entre guillemets, existence. Ça, c'est l'individualisation. La notion d'individuation, elle est infiniment plus large et plus ancienne. Elle renvoie à cette idée, c'est les classiques de la sociologie, que l'individu est le produit d'une manière de faire société. Que le processus d'individuation intervient, bien sûr, la socialisation familiale ou secondaire, mais qui suppose évidemment tenir compte des structures économiques, du droit, en tant que grande définition des individus, mais aussi des représentations culturelles. Bref, qu'une société, c'est une machine à fabriquer des individus dont la socialisation est une petite variante. Il faut faire bien comprendre. On dit parfois, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs on continue à répéter, que la famille, c'est la cellule de la société. Il suffit de penser quelques secondes pour comprendre que c'est faux. La famille, c'est la cellule de l'individu. Soins, care, prolongement, attention, langue, etc. La cellule de la société, c'est l'économie, c'est la technologie, c'est le droit, c'est évidemment la représentation culturelle. Eh bien, l'individuation consiste, sans oublier, sans négliger les phénomènes de socialisation, comprendre que nous devons analyser les processus structurels de fabrication des individus en tenant compte de cette panoplie infiniment plus large des conditionnements collectifs. Voilà comment je vois les trois termes, mais je les impose à personne. C'est une manière de les comprendre.
Bien, écoute, il nous reste à te remercier. C'est vrai que nous sommes en fin d'une grande journée et donc peut-être que ça commence à fatiguer, mais je voudrais te dire que c'est très clair, tes réponses sont très vraiment importantes et elles font partie effectivement des réflexions qui traversent différents écrits. Enfin, vraiment, tu vas nous nourrir et tu vas nourrir la réflexion des personnes présentes. Merci beaucoup, beaucoup, et on va encore t'applaudir très fort. Bon, à la prochaine. Merci. On te libère aussi, mais bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.